Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magalie Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC, pour Conseil, Formation, Communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de trois choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là, et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts? On y va? Je vous emmène avec moi? Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est le mentalisme. Donc en quelques mots, le mentalisme, c'est une discipline qui a été rendue populaire grâce à la série télé Le Mentaliste et aussi d'autres artistes que vous devez connaître comme Darren Brown. Je parlerai aussi de Fabien Olicard qui a eu pas mal de travaux sur le sujet, qui a vendu beaucoup de livres aussi dans ce domaine-là. Mais en plus de ça, le mentalisme, c'est avant tout un art de savoir analyser et interpréter l'être humain dans son environnement. Donc, l'un des outils pour y arriver, c'est de décrypter la communication non verbale. C'est là où ça va nous intéresser aujourd'hui dans ce podcast qui est dédié à la prise de parole en public. Donc, le mentaliste exerce son aptitude au quotidien. Il analyse les gens, il se documente. Et pour être un bon mentaliste, je crois, mais mon invité du jour nous le précisera tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il faut aussi avoir une large culture générale. Je dirais, pour déjouer un petit peu le côté magie, hein, c'est que les mentalistes utilisent les failles du cerveau humain pour donner l'impression d'avoir des pouvoirs surnaturels, de deviner les choses. Et en fait, c'est un véritable, au final, travail d'observation. Donc aujourd'hui, voilà, je vais finir par dire son nom. J'ai le plaisir d'accueillir Larsen. Donc Larsen, je vous mettrai son lien vers son site internet, il va se présenter. Mais en tout cas, il est spécialisé dans tout ce qui est close-up et mentalisme. Voilà, donc du coup, c'est quelqu'un avec qui j'ai été amenée à travailler, donc quelqu'un de très doué, de provocateur, de drôle, de charismatique, qui a beaucoup d'humour, avec qui c'est très agréable de travailler. Et il est reconnu depuis des années dans le close-up, donc c'est-à-dire qu'il va faire de la magie, mais à quelques centimètres de vous, et vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Donc pour l'avoir vécu, effectivement, c'est assez troublant. Il propose aussi du mentalisme et grâce à ça, il a pu voyager, pas qu'en France, aussi rencontrer des personnes à l'étranger telles que Tony Parker, Hugh Grant, Lily Rose Depp, vous verrez ça sur son site internet, Jean Dujardin, François Berléand, Patrick Bruel, Elie Chouraki, Nicolas Bedos sont des personnes qui ont mis des témoignages positifs sur leur rencontre avec Larsen. Et il a travaillé notamment pour les marques de sport. Et je en viens du coup à la raison pour laquelle nous nous sommes connus. Il a travaillé donc pour Lacoste, le PSG, Racing 92, le Tour de France et Roland Garros depuis 1998. Donc moi, j'étais pour la petite histoire conseillère en développement à la Ligue des Hauts-de-Seine de tennis en lien avec la Fédération française de tennis. Et j'avais comme mission notamment d'organiser des événements pour la Ligue et de faire venir des personnes pour animer nos séminaires. Et donc, nous travaillons en étroite collaboration avec Larsen qui nous fournissait toujours des animations de grande qualité. Donc, pour parler de prise de parole en public, habitude de la scène, analyse du non-verbal, analyse des personnes. Donc voilà, je te passe le relais, Larsen, et merci d'avoir répondu présent.
Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Larsen, je suis magicien, close-up, mentaliste. Ma priorité, c'est le close-up. J'exerce le mentalisme depuis une quinzaine d'années maintenant, j'utilise soit en close-up ou soit sur scène, parce que j'ai un spectacle qui dure une heure et demie, qui est basé justement sur le thème du sport, qui est un spectacle qui est très interactif et qui plaît autant aux petits qu'aux grands. Voilà.
Ok, merci pour la présentation. Alors, du coup, toi, tu as une habitude de la scène, on dirait, effectivement. Comment est-ce que tu es tombé dans la scène ?
Alors, moi, ça a d'abord été une rencontre déjà avec un magicien, parce qu'on ne devient pas magicien comme ça du jour au lendemain. C'est une rencontre. Suite à cette rencontre, je me suis mis à à travailler, à prendre des tours. À la suite de ça, je faisais mes études à côté. Le père de mon meilleur ami m'a dit un jour, qui avait un restaurant à La Rochelle, parce que j'habitais La Rochelle, m'a dit un jour, ce week-end, j'ai un groupe au restaurant, est-ce que tu peux venir faire des tours ? Je suis allé faire des tours. Et puis, c'est comme ça que ma vocation est venue. J'ai fait des rencontres dans ma carrière qui ont fait que tout de suite, je suis monté sur Paris.
Ok. Donc, ça a été aussi des rencontres, un concours de circonstances et puis un environnement.
Exactement. J'avais personne dans mon entourage familial qui était magicien ou dans le monde du spectacle.
D'accord.
Et c'est vraiment, ça a été une rencontre, une passion et entre guillemets une drogue.
Mmh. Donc, c'est vite devenu une drogue parce que qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, du coup, être sur scène, faire ces tours de magie ?
Alors, au départ, d'être sur scène, ce n'est pas facile parce que moi, je suis à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement timide.
D'accord.
Donc, je me suis servi de la magie pour combattre ma timidité. Mmh. Après, faire des tours à 2 cm des yeux des gens, c'est quelque chose de relativement facile. À partir du moment où on monte sur scène et qu'on est devant un public qui soit composé d'hommes, de femmes, d'enfants, mais qui est 50 ou 4500 personnes, parce que le maximum que j'ai fait, c'est 4500 personnes dans une salle. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément évident. Au début, forcément, on a un peu le trac, ainsi de suite. Après, c'est avec l'expérience, le temps. Mais je me suis toujours dit qu'à partir du moment où on maîtrise son sujet, c'est-à-dire son spectacle, rien ne peut vous arriver.
D'accord. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis « moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide ». Tu es la deuxième personne que j'interview, pareil, qui est vraiment… je ne l'aurais jamais deviné. Hein, moi, tous les échanges que j'ai eu avec toi, encore une fois, pour moi, tu es quelqu'un d'extraverti, tu es quelqu'un avec un très, très bon relationnel, mais ça ressort assez souvent, finalement.
Oui, oui.
Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est un bon exercice au final hein, pour les personnes, les auditeurs qui nous écoutent, qui n'osent pas prendre la parole en public parce qu'ils sont eux-mêmes timides. Voilà, c'est se confronter pour toi à ça pour progresser.
Exactement.
D'accord. Donc, écoute, très intéressant. On vous pousse à aller sur scène. Hein, 4500 personnes en face de vous, ça va vous débloquer.
Ça motive.
Ça motive, ok.
Mais à partir du moment, encore une fois, qu'on maîtrise son sujet, qu'on sait où on veut emmener les gens, la timidité, elle disparaît. Par contre, dans le sens inverse, je suis dans une salle de spectacle, on me demande de monter sur scène, là, je vais devenir extrêmement timide parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais D'accord. quand je suis sur scène, je peux être devant n'importe qui, j'ai aucun souci avec ça, à partir du moment où c'est moi qui emmène les gens là où je veux qu'ils aillent.
D'accord. Alors, quand tu dis maîtriser son sujet, toi, justement, pour maîtriser ton sujet, pour être à l'aise, parce que voilà, tu sais ce que tu as à faire, est-ce que tu le travailles en visualisant ? Est-ce que tu as des choses particulières pour faire en sorte que tu maîtrises bien ton sujet, tu saches,
non,
t'es pas de blanc, quoi.
Non, c'est avec l'expérience. Je pense que quand j'ai commencé et que je me suis mis à faire des spectacles entre 18 et 20 ans, si j'avais l'expérience que j'ai aujourd'hui, non, c'est avec le temps, c'est comme le vin, c'est on se bonifie avec le temps. C'est l'expérience, c'est les rencontres, c'est les moments de solitude sur scène, parce que bien évidemment, ça nous arrive, où il y a des fois, ça ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne. Mais c'est surtout avec le temps et l'expérience.
D'accord, ok. Alors justement, tu viens de dire qu'il y a des fois, ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous livrer ? Parce que tu vois, je crois en vertu de l'échec. Hein. Il y a Charles Pépin qui a écrit un livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec ouais. » et qui disent que des fois, on se plante ou voilà, et puis on en ressort peut-être grandi ou on apprend des choses. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça, toi, que tu aurais à nous livrer ? Pas obligatoire.
Non, mais nous, alors la plupart du temps, si on se trompe, il y a deux cas de figure. Soit ça vient de nous, mais on le sait avant même qu'on donne le résultat, du moins en tout cas qu'on finisse le numéro. Donc après, c'est l'expérience, c'est la répartie, c'est tout ça qui va faire qu'on va se sortir de cette situation-là, parce qu'encore une fois, les gens ne nous connaissent pas la fin du numéro. Soit c'est inévitable et on se trompe. Soit encore une fois, avec l'expérience, tu déroutes l'attention et tu passes à autre chose sans que les gens se rendent compte que tu t'es trompé. Mais très très souvent, c'est de la faute des gens parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur demande de faire. Et très, souvent, quand on se trompe, c'est que ça vient pas forcément de nous, ça vient souvent du spectateur. Parce qu'encore une fois, quand on demande à quelqu'un de monter sur scène, qui n'a pas l'habitude de monter sur scène et qu'on lui demande de faire des choses en sachant qu'il peut y avoir énormément du monde ou beaucoup de monde devant lui et qui n'a pas cet exercice de monter sur scène, peut être vite déstabilisé et peut vite faire des erreurs et pas forcément écouter ce qu'on leur demande de faire.
Ah oui, donc ça, effectivement…
Encore une fois, on fait de la magie, on ne fait pas des miracles.
Mais voilà, c'est ça. Et donc ça, quelque part, il faut que tu sois habitué à ça, que tu puisses te rattraper, quoi, te rattraper aux branches, t'adapter.
Exactement. Après, c'est la répartie, c'est le charisme, c'est tout ça qui fait que un tour qui peut partir entre guillemets en vrille, à nous de faire comprendre aux gens de s'être trompé, on n'a pas le droit à l'erreur, mais on essaye de dérouter les gens sur autre chose et de passer à autre chose sans qu'ils se rendent compte que on est passé à autre chose ou qu'on a fini. Voilà. Après, on s'adapte. C'est en fonction de la situation, en fonction de la réaction des gens et des personnes qui sont avec nous sur scène.
Oui, ce que tu dis me fait penser aussi, tu sais, moi j'ai quelques étudiants que je forme sur la prise de parole en public, et c'est ce que je leur dis toujours, ça peut arriver de se tromper, par contre, il faut enchaîner,
Voilà,
continuer.
c'est ça. Il faut pas
C'est
laisser le
comme,
temps au spect... Il
voilà.
faut surtout pas laisser le temps aux spectateurs de se rendre compte y a eu une erreur ou il y a eu une petite galère dans le numéro. Mais encore une fois, nous, quand on commence notre spectacle, on sait déjà où on veut vous emmener. Donc, puisque, entre guillemets, tous les jours, on a les mêmes réactions, même si les gens sont différents, c'est comme un sketch. Voilà, on sait où on commence, on sait où on finit, on sait où on veut vous emmener. Et s'il y a une erreur en cours de partie, les gens ne savent pas la fin, donc voilà, on s'adapte
Ouais, c'est ça,
en permanence.
faut se projeter sur l'autre plutôt que sur soi. Tu vois, ce petit exemple me fait penser, c'est des fois tu fais des retours en arrière. J'avais fait un spectacle de piano, moi je jouais au piano et
Bien.
on avait un
Ouais.
quatre mains à faire devant des personnes et en fait on a tout raté.
Ouais.
Sauf qu'à la fin tout le monde a applaudi, c'était génial, c'était beau et c'était de la musique contemporaine. Donc il n'y avait que nous qui savions que nous étions trompés à ce quatre mains et personne ne le savait. Donc ça rejoint un petit peu ça.
Ouais, puis il faut savoir se mettre en dérision. Si vraiment il y a vraiment un cas de figure qui est irrattrapable, il faut savoir se moquer de soi ou accepter qu'on ait fait une erreur et de le ramener avec de l'humour.
Tout à fait. Alors, tu parlais de charisme. Alors, ça, c'est un mot qui revient souvent hein, quand on parle de prise de parole en public. Il y a certaines personnes, des fois, qui disent, bon, voilà, moi, c'est déjà en place, j'arrive à bien parler, je ne fais pas trop de E, enfin, voilà, tout le non-verbal est plutôt pas mal. Par contre, je n'ai pas de charisme. Quand j'arrive, les gens ne me voient pas, m'entendent pas. Où est-ce que tu mettrais le charisme? Quelle serait ta définition du charisme?
Alors, il n'y a pas 36. Pour moi, tu l'as ou tu ne l'as pas. Il y a
D'accord.
des gens, ils peuvent tout avoir et c'est naturel chez eux. Il y a des gens, ils vont tout faire, ils vont bien s'habiller. Voilà. Mais quand ils vont rentrer dans une salle, ils ne dégagent rien. Et ça, il y a des gens qui le dégagent et il y a des gens qui ne le dégagent pas. Je pense qu'après, tu l'as ou tu ne l'as pas. Encore une fois, moi, quand je prends des gens sur scène, c'est pareil, je vais prendre des gens extravertis, jamais de gens introvertis, parce que la personne introvertie ne va pas t'emmener et va pas t'aider à réaliser ton tour et va pas emmener le public avec toi. Donc, toujours prendre quelqu'un d'extraverti, dans la limite où il faut pas non plus qu'il soit au-dessus de toi. C'est-à-dire que c'est toi qui le tiens, c'est toi qui le maîtrises. Et voilà, il ne faut pas qu'il prenne le dessus par rapport à toi. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans le contrôle.
D'accord.
Mais le charisme, je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. Je pense que ça ne s'apprend pas. Tu as
Ouais.
des gens, quand ils rentrent dans une salle, tout de suite, tu les regardes et ils dégagent quelque chose. Et puis, tu en as d'autres, ils font tout ce qu'il faut pour qu'on puisse les remarquer. Mais malheureusement, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas de charisme et ça ne t'y peut
D'accord.
rien. Tu as des gens qui l'ont, tu as des gens qui ne l'ont pas.
D'accord, ok.
Et
Au
je
niveau
pense
de...
que pour moi, ça ne s'apprend pas.
Ça s'apprend pas, tu penses. Il n'y
Non,
a pas une question
pour moi, ça ne
d'énergie,
s'apprend pas.
de...
Non,
Ouais.
c'est tu l'as ou tu ne l'as pas.
D'accord, ok. Alors, tu disais que tu vas prendre dans la salle des personnes qui sont extraverties.
Oui.
Alors, c'est impressionnant. Tu arrives à voir en quelques secondes qu'une personne dans la salle est extravertie, toi?
Ouais, juste en regardant les gens.
Oh,
Alors,
c'est énorme.
me demande pas comment je fais.
Ah, ça fait
Et
envie de savoir, là.
ouais, non, me demande pas comment je fais parce que c'est la question qu'on me pose systématiquement à la fin d'une soirée. On me
Ouais.
dit, on me dit régulièrement que je choisis toujours les bonnes personnes par rapport à des numéros et ainsi de suite. Et ça s'explique pas. C'est des sensations. Et moi, j'ai juste besoin de regarder les gens et je sais quels sont les gens qui vont m'aider. Alors, ça m'arrive de me tromper, mais c'est vraiment extrêmement rare.
D'accord.
Pareil, de la même façon que le charisme, il y a des gens qui le dégagent naturellement. Il y a
Ouais.
des gens ils sont dans une salle, c'est des aimants. Ils t'attirent et tu as envie d'aller vers eux parce que tu sais que ces gens-là vont t'aider et vont te mettre de l'ambiance, vont te mettre du rythme. Le rythme est très important dans un spectacle. Et la plupart du temps, ce n'est pas moi qui fais le spectacle, c'est souvent les gens que je fais venir sur scène. Moi, je suis
Attends.
accessoire. Moi, c'est ce que je dis très souvent. Je suis un metteur en scène. J'ai écrit mon film, je connais mon film par cœur. À moi de choisir des bons acteurs pour faire un bon film.
D'accord.
Voilà.
Donc là, ça rejoint l'observation, en fait. Hein. C'est même plus que de l'observation, c'est un scan intégré que tu as l'air d'avoir.
Ouais. Mais plein de gens me demandent comment je fais pour choisir les bonnes personnes. Et encore une fois, ça ne s'explique pas. Alors très souvent, quand je suis dans une soirée, avant de commencer, j'aime bien regarder un peu les gens dans la salle. Ou j'aime regarder quand les gens s'installent à table, si c'est pour du close-up. Pareil, j'aime bien me faire un petit tour pour analyser un peu les gens, regarder les gens. Et puis, ça va t'aider aussi parce que le plus important quand tu montes sur scène, c'est les 30 premières secondes. Tu as 30 secondes pour prendre l'attention des gens. Si tu rates ton entrée, c'est mort après. Donc, à moi de choisir la personne qui va te mettre le feu et qui va t'aider à faire une entrée fracassante.
Alors, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, toi, dans la rue, instinctivement, des fois, tu vas demander ton chemin ou tu vas parler à des gens. C'est pas toujours les mêmes. Enfin, c'est toujours le même genre de personne. Peut-être que dans les yeux aussi, dans la façon dont la personne va regarder, on a un regard déjà plus franc, peut-être plus ouvert. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question-là sur des personnes qui vont être plus extraverties, plus entreintes à parler que d'autres qui vont plus regarder.
Alors, c'est marrant parce que j'ai eu une expérience il y a 24 heures. J'étais à Bordeaux sur une convention des experts comptables et à un moment, j'ai pris un jeune homme qui était extrêmement timide. Et ce n'est pas forcément quelqu'un que j'aurais pris au départ, mais je savais pertinemment que c'était une façade. C'est-à-dire que derrière, il fallait gratter pour avoir quelque chose de bien et ça l'a fait très bien. Et y a des fois, l'apparence peut être trompeuse. C'est vrai que des personnes timides, d'habitude, je les prends jamais, mais là, je savais que c'était quelque chose de… C'était une façade et que derrière, il fallait gratter un petit peu et en grattant, on savait que… On allait en sortir quelque chose. Mais il y a des gens comme ça qui sont un peu plus forts, un peu forts. Sont des gens qui sont morphologie, qui sont très intéressants. Les gens de communautés différentes sont les Asiatiques, les Africains. Mm. Tous ces gens-là sont des gens avec qui moi je m'amuse sur scène parce que ça veut pas dire que le latin ou l'européen mais le latin et l'européen est plus cartésien que l'africain, l'asiatique, c'est des joueurs,
c'est culturel.
C'est culturel, ouais, tout à fait.
Oui, il y a des traits culturels. Et pour rejoindre sur la morphologie, ce que tu disais, s'il y a des personnes que ça intéresse, de regarder tout ce qui est Ayurveda. Ça rejoint ce que tu dis. Donc, dans l'Ayurveda, en fait, ils te disent que dans les morphologies justement fortes, avec une structure forte et tout ça, souvent, ce sont des personnes qui ont des tempéraments de bons vivants. Effectivement, j'ai fait une conférence sur l'Ayurveda, j'ai trouvé ça génial. C'est tellement parlant. Et après, tu regardes les morphologies d'un autre œil et tu tombes pile poil.
Tout à fait, ouais.
C'est impressionnant. Écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau du non-verbal ? Donc là, on a vu, toi, tu scannes, mais effectivement, comme ça. Mais une fois que tu as la personne sur scène, est-ce qu'il y a des choses qui t'indiquent un petit peu comment est-ce que tu vas pouvoir échanger avec la personne sur leur non-verbal ? Je ne sais pas, le regard, la posture, le…
Non, moi, j'ai une technique un peu particulière, c'est que j'aime bien piquer un peu les gens. Pourquoi je les pique ? Parce que ça me permet justement de… Alors, je prends l'exemple, c'est pas forcément un bon exemple, mais on prend à l'époque Baffy, c'était quelqu'un. Alors, je suis pas fan de Baffy parce qu'il était un peu dans les extrêmes, mais il faut juste trouver le juste milieu entre ce que faisait Baffy et ce que je peux faire. C'est plus tu piques, plus les gens s'intéressent à toi.
D'accord.
Et à partir du moment où tu piques et que tu… Mais il faut piquer avec bienveillance, avec talent, parce que si tu piques et que derrière t'es pas bon. Le retour va être terrible. Mais à partir du moment où tu maîtrises techniquement, que tu dégages quelque chose et que tu as du charisme et que derrière tu t'amuses à piquer, mais par bienveillance, parce que moi c'est ce que je fais systématiquement, à la fin c'est pas moi qui me fais applaudir, mais je fais applaudir les gens qui sont venus sur scène pour m'accompagner parce que j'estime que c'est eux qui font le spectacle à ma place. C'est ça qui est drôle, c'est que plus tu piques, plus les gens s'intéressent à toi.
D'accord.
Comme tu le dis, c'est moi ce que je souhaite quand j'interviens sur des séminaires ou des congrès ou des soirées ou en spectacle sur scène. Ce que je souhaite, c'est surtout que les gens passent un bon moment. C'est-à-dire que les tours, bien évidemment, ils sont importants, mais le plus important, c'est la personnalité du magicien ou du mentaliste. qui fait que à la fin, je veux que les gens se disent, on a passé un bon moment, on a ri, et en même temps, il nous a impressionnés. Si c'est juste pour faire une démonstration de tour et de se dire, je suis le meilleur ou pas le meilleur, ça n'a aucun intérêt. Des magiciens ou des mentalistes, il y en a plein aujourd'hui en France. Si j'ai la particularité d'intervenir depuis, comme tu l'as dit tout à l'heure, depuis alors presque 25 ans à Roland-Garros ou 27 ans au PSG ou depuis 22 ou 23 ans sur le Tour de France et plein d'autres événements, et avoir des clients qui m'appellent même 15 ans après, c'est que justement, c'est ce que je veux faire passer, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est le public qui choisit, c'est le public et ce sont nos interlocuteurs, nos clients qui décident et on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que si on est encore là et si je suis encore là après plus de 30 ans de carrière, c'est qu'il y a une raison. Et moi, ma raison principale, c'est de faire passer un bon moment aux gens et c'est avant tout ce que les gens souhaitent quand ils nous demandent de venir.
Tu vois, ce qui est pas mal ressorti au travers des interviews, c'est aussi ce que tu es en train de mettre en exergue, c'est cette valeur d'authenticité, je dirais. Hein, il me semble qu'effectivement, on pourrait se dire, le mentalisme, c'est… certaines personnes utilisent le mot manipulation, choses comme ça, mais là, non, on est vraiment sur ce que tu dis, en fait, de faire passer un bon moment, de mettre la personne en lumière, et il y a quand même de l'authenticité dans ton personnage.
Oui, tout à fait, ouais. Et puis je pense qu'aujourd'hui, avec encore plus ce qui vient de se passer de ces deux dernières années, les gens ont encore plus envie de sortir, encore plus envie de s'amuser, encore plus envie de passer des bons moments, et c'est ce que je reproche, entre guillemets, après… Après, chacun voit sa carrière comme il a envie de la mener. Mais pour moi, le problème des magiciens, c'est qu'ils sont tous persuadés d'avoir des pouvoirs. Et le problème, c'est que le pouvoir, ça ne se partage pas. Donc, quand ils viennent faire une prestation, très souvent, ils ne pensent qu'à eux, c'est-à-dire à montrer à leur public qu'ils sont très forts et ainsi de suite. Alors oui, on est très forts. Oui, on a cette particularité de faire rêver les gens. Mais à côté de ça, je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est de créer de la convivialité, créer de l'échange et encore une fois leur faire passer un bon moment.
Tout à fait. Alors tu vois, de ce que j'entends, c'est que tu me disais que tu étais quelqu'un de timide à la base. Tu as confronté cette timidité, t'as augmenté, enfin t'as gagné du charisme, ça fait des années que tu fais ça. Tu m'as parlé de bienveillance. Tu m'as parlé de mettre en valeur les autres. Est-ce qu'on peut dire que dans toi, tes valeurs aussi intrinsèques, qu'est-ce que ça nourrit chez toi de faire tout ça au final? Je fais un petit peu la psy, là.
Moi, le plaisir que j'ai, ça fait depuis 80, ça fait 34 ou 35 ans que je pratique cet art et ça fait 32 ans que c'est mon métier. Moi, le plaisir que je prends tous les jours, c'est que tous les jours, je suis dans des univers différents, dans des milieux différents, avec des gens de niveaux sociaux complètement différents, autant avec des chefs d'État, des stars planétaires, des agriculteurs, des prisonniers, des gens qui sont hospitalisés dans des centres psychiatriques. Moi, j'ai tout fait dans ma carrière et j'ai rencontré des gens incroyables. Et ce métier m'a fait rencontrer des gens incroyables et pas forcément les gens les plus importants comme on pourrait le penser. C'est juste que on prend un tel plaisir à faire rêver les gens parce que à la base on est tous des enfants et on peut avoir n'importe quel âge, on peut être n'importe qui. À l'échelon social, autant un chef d'État ou qui que ce soit, en deux secondes, ça devient votre ami, tout simplement, parce qu'on le fait rêver.
C'est beau ça. Ouais. C'est-à-dire que tu reconnectes un petit peu, parce que moi je parle en développement personnel de l'enfant intérieur, on a tous son enfant intérieur et des fois on le fait taire, quoi. En grandissant, les responsabilités, tout ça, on dit, tais-toi, mon enfant intérieur. Et là, ce que tu proposes fait que ça se reconnecte direct.
Mais donc, tout à fait, moi, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. J'ai plein d'anecdotes où des gens qui, pour moi, j'étais à 100 millions de m'imaginer que j'aurais rencontré un jour dans ma carrière et qui, en deux secondes, où tu le sais très bien parce que tu as un peu voyagé dans ce domaine-là, c'est qu'il y a des fois des gens tellement importants où tu te dis, pour leur adresser la parole, il faut parler à 25 personnes avant qu'on t'autorise d'aller l'approcher, et que toi, tu arrives en deux secondes, tu as passé toutes les barrières en deux secondes, et qu'en deux secondes, celui qui d'habitude est inapprochable, en deux secondes, ça devient ton ami. Et il y a des fois, ce monsieur ou cette dame travaille avec des gens depuis 20 ou 30 ans, et que personne, tout son entourage le vouvoie où là vous voit et que toi en 2 secondes c'est le tutoiement, ton ami, tout simplement parce que tu l'as fait rêver, tu l'as fait redevenir un enfant.
Voilà, c'est ça. Alors quand tu dis ça, ça fait vibrer un petit peu l'émotionnel aussi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je dis souvent, quand on va faire un discours, c'est bien, par exemple, je me présente, je m'appelle telle personne. Bon, c'est entendu, c'est revu. Par contre, si je dis, moi, quand j'étais petite, j'ai fait ça, ça m'a fait, mon père ceci, mon père cela. Là, je livre de moi-même. Et quelque part, là, tu fais vibrer l'émotionnel des personnes. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises aussi beaucoup, toi ?
Ouais, l'émotion. Alors, moi, j'ai horreur de parler de moi.
Ouais.
Je suis quelqu'un, encore une fois, d'extrêmement timide, et même quand il y a des fois on me présente ou on m'applaudit ou on parle de ma carrière, je me mets toujours en retrait parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de renfermé et qui parle pas beaucoup. J'aime bien parler de moi, mais voilà, lors d'une conversation comme on le fait là, j'ai du mal à, c'est pas que j'ai du mal, mais le fait de se faire applaudir, c'est tout bête, mais quand je dis tous les soirs, et je le dis en rigolant, je dis bon allez, je vais aller me faire applaudir ce soir, c'est la vérité, mais j'en suis gêné parce que je me demande pourquoi on ne m'applaudit pas et pourquoi on n'applaudit pas des gens qui… C'est pour ça que quand je fais mon spectacle et que je termine mon spectacle, je mets toujours en avant les gens qui m'ont aidé à faire mon spectacle parce que, encore une fois, moi, je suis un maître de cérémonie, mais le spectacle, c'est grâce au public, c'est grâce aux gens que je vais choisir et ainsi de suite. Mais je suis toujours un peu dans le retrait vis-à-vis de moi parce que j'aime pas forcément qu'on me mette en avant. Et de ce côté-là, je suis assez timide. Ouais.
Non, mais de toutes les personnes que j'ai interviewées, comme de par hasard, c'est un petit peu la même chose.
Ouais, même pas.
Parce qu'il y a des valeurs aussi, des valeurs humaines.
C'est vrai qu'on nous met à la lumière. On nous met sous les lumières et tout ça, mais on fait un métier comme tout le monde. C'est moi qui ai la chance de rencontrer énormément de personnalités depuis 30 ans dans ma carrière. Alors oui, quand on rencontre les uns et les autres et qu'on se dit ce sont des personnalités plus ou moins importantes, mais au final, ils sont comme vous et moi. Ils font juste un métier qui fait qu'on les met sous la lumière ou devant des caméras. Mais le médecin a autant de mérite que l'artiste et ainsi de suite. Donc, c'est juste que c'est un métier qui est, qu'on met en lumière un peu plus que les autres et qui font qu'on nous met un peu dans le vedettariat ou dans le showbiz ou dans ces choses-là, mais au final, on est comme tout le monde.
Hein. Oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu aurais quelques mots, je ne sais pas si c'est des conseils, mais des choses à partager avec nos auditeurs, parce que tu sais, comme je te l'ai dit, donc normalement, c'est plutôt des personnes qui ont envie de progresser dans la prise de parole en public, par le fait de parler, par le fait d'écouter. Toi, vu que tu as quand même l'expérience sur scène, tu as acquis des choses, est-ce qu'il y aura des choses que tu voudrais partager, dire à ces personnes-là ?
Non, je pense que, encore une fois, si elles sont timides et qu'elles ont peur de monter sur scène rien que pour faire un discours, moi, c'est ce que je dis, c'est rien ne peut vous arriver à partir du moment où vous maîtrisez votre sujet, votre intervention. À partir du moment où on maîtrise son sujet ou son spectacle, rien ne peut vous arriver. Même quelqu'un d'extérieur qui va essayer de vous déstabiliser, à partir du moment où vous connaissez par cœur le sujet ou votre spectacle et que vous voulez les emmener là où vous avez envie qu'ils aillent, après, c'est que de la confiance. Après, oui, il y a de la timidité, il y a de l'appréhension, il y a du stress parce qu'on n'a pas l'habitude de monter sur scène, on n'a pas l'habitude que les gens nous regardent et ainsi de suite. Donc, on est un peu… Mais encore une fois, à partir du moment où on maîtrise, il faut oublier tout ce qu'il y a autour et foncer et y aller. Alors, bien évidemment, si on arrive et qu'on ne connaît pas son sujet et que on n'est pas capable de répondre à des questions lors d'une intervention ou ainsi de suite, c'est vrai que c'est compliqué. Encore plus quand on n'a pas l'habitude de monter sur scène. Mais moi, ça m'arrive et ça m'arrivera encore d'être stressé, mais on est plus stressé par le fait. Moi, je n'ai pas de stress à monter sur scène. J'ai du stress de me dire, est-ce que ça va prendre ? C'est-à-dire, les gens vont être là et est-ce que les gens vont adhérer à mon spectacle ou adhérer à mon discours ? C'est surtout ça. Parce que, encore une fois, moi, je sais où je veux les emmener, mais si ce soir-là, pour une raison X, Y, ils n'ont pas envie d'adhérer, on aura beau tout faire, on aura beau être le meilleur du monde, si ça ne prend pas, ça ne prend pas parce qu'il y aura eu des raisons à ça. Mais après, non, je pense que n'ayez pas peur de monter sur scène, n'ayez pas peur de prendre la parole, n'ayez pas peur de vous adresser aux autres. Et je pense que plus vous le ferez, plus ça va venir naturellement. Mais même pour la personne qui a l'habitude de monter sur scène quasiment tous les jours, il y a toujours une part de stress.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Mais après, c'est pas de la panique, c'est un petit stress de savoir comment ça va se passer. Après, encore une fois, à partir du moment où moi je connais mon spectacle par cœur et que je sais où je veux les emmener, après c'est que du bonheur.
Ouais.
Et voilà. Après, il y a des jours où ça prend, il y a des jours où ça prend pas, et ça peut venir de nous comme ça peut venir aussi des gens ou de l'ambiance. Il suffit juste qu'il y ait un perturbateur, un enfant qui pleure. Une lumière qui marche pas, qui fait que ça va perturber le spectacle, mais encore une fois, non.
Mais je suis assez contente de ce que tu as dit, notamment pour la confiance, parce qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas la même confiance en soi, tu vois, ça dépend de son histoire. À la confiance, on peut dire à des gens, ayez confiance en vous. Bon, à la personne qui a eu une histoire difficile avant, machin, enfin, on ne sait pas toujours tout et c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, quand tu disais que tu as vu des personnes de tous les univers, et même des personnes connues ou autres, où des fois on se dit, je ne vais pas lui parler, je ne vais pas l'aborder, et qu'en peu de temps, tu as réussi à créer la connexion, je trouve que c'est quelque chose qui peut déculpabiliser les gens en leur disant, bah voilà, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de surhomme, en fait. Hein. Il n'y a pas de surhomme.
Il y a aussi le problème que... alors, moi qui les connais tout particulièrement, parce que je les fréquente énormément depuis plus de 30 ans, il se passe l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités qui sont, alors pas toutes, hein, bien évidemment, mais qui sont tristes parce que justement, les gens n'osent pas aller vers eux.
Ah oui.
Du fait, par peur de... Alors, c'est sous... j'ai plein d'exemples aussi, mais c'est... qui sont malheureux parce qu'il y a des gens qui les côtoient et qui n'osent pas aller les voir parce qu'ils n'osent pas aller les déranger parce que c'est quelqu'un, c'est une personnalité. Enfin, ça peut être dans les deux sens, mais ça peut être aussi dans le sens inverse, une personnalité qui est triste parce que les gens ne viennent pas le voir par peur de le déranger et ainsi de suite. Alors, il y a les extrêmes, il y a ceux qui dérangent de trop.
Oui, c'est ça.
mais ça marche autant dans un sens que dans l'autre.
D'accord. Bon, bah écoute. Eh ben, merci beaucoup, Larsen. Bon. Je pense qu'on a fait pas mal de tour de la question sur le mentalisme, sur plein de choses. On connaît un petit peu mieux ton parcours. Est-ce qu'on peut te retrouver bientôt quelque part? Est-ce que tu as un message à passer sur les gens qui auraient envie de savoir ce que tu fais?
Non, écoute, moi je fais beaucoup de, comme tu le sais, je fais depuis toujours énormément d'événements. Ce qu'on appelle événementiel, c'est-à-dire je travaille pour des entreprises.
Ouais.
Je suis beaucoup dans l'événement sportif puisque j'étais encore ce week-end au tournoi Destination au Stade de France. Je serai au Stade de France encore samedi après-midi et au PSG la semaine prochaine pour le match du Real. J'interviens beaucoup. Je commence à faire des scènes et des spectacles pour le grand public.
Mais
quand tu as la chance de beaucoup travailler en événementiel, c'est vrai que tu n'as pas le temps de te poser pour faire des spectacles grand public, mais ça commence à venir parce que j'ai de plus en plus de demandes. Après, si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui est Larsen Magie.
D'accord, je mettrai aussi le lien vers ton site internet en tout cas.
Ouais,
et puis voilà, comme ça, voir. Et puis je pensais aussi mettre, moi c'est quelque chose que j'avais regardé au tout début quand je t'avais connu, c'était les liens vers le Grand Cabaret, parce qu'à l'époque tu étais intervenu au.
Ouais. Ouais, dans l'émission de Patrick Sébastien, bien sûr.
Voilà, ouais, ça c'était sympa. Donc je mettrai ces liens-là, comme ça les gens, ils pourront regarder ce qu'ils veulent.
Exactement.
merci en tout cas, merci beaucoup Larsen, c'était chouette
le
moment passé ensemble. Merci
à vous et à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.